Les parts actualités. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Clotilde Seille sur les ondes de Canal M pour l'émission Les Paractualités en ce mercredi 19 octobre 2016. Alors les titres aujourd'hui, vos animaux de compagnie s'engagent pour la bonne cause. Une entrevue, l'entrevue du jour, c'est celle de René Binette, directeur de l'écomusée du Fiermonde. C'est une nouvelle exposition, Le peuple de l'œil, 160 ans d'histoire de la communauté sourde. Également à l'émission, une plage accessible à tous à Verdun, une facture pour un jeune homme, un jeune garçon handicapé, un souper pour nourrir des enfants haïtiens. Et c'est Marie-Ève Veilleux, cofondatrice de Transport Mésadapté, qui sera représentante de l'organisme du jour et avec qui je vais m'entretenir. Alors, vous êtes fous de vos animaux de compagnie et aimez en exhiber des photos sur les réseaux sociaux. Eh bien, Elisabeth Fleury, dans Le Soleil, écrit que vous pouvez désormais le faire pour une bonne cause, celle des enfants vivant avec un handicap. La Fondation Élan et l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, ont lancé mardi une campagne de financement originale pour promouvoir le mieux-être des personnes handicapées. Les animaux de compagnie seront les porte-étendards de cette collecte grand public et qui se déroulera jusqu'au 8 décembre. L'idée, c'est d'inscrire son animal de compagnie sur le microsite Compagnon à vie, compagnon au pluriel, à vie, en un seul mot, .com, et de compléter la fiche de son compagnon. Les participants n'auront qu'à partager le profil de l'animal et à laisser son charme opérer auprès de ses contacts, a résumé en conférence de presse la directrice générale de la Fondation Élan, Annie Gagnon. Un voyage en Californie incluant une visite VIP du zoo de San Diego d'une valeur de 5 000 $ sera attribué parmi toutes les personnes qui auront amassé un minimum de 200 $ en dons. Selon l'ergothérapeute Marie-Chantal Picard, les animaux ont cette faculté de motiver les enfants dans leur processus de réadaptation. Elle dit « Ça peut être très difficile pour un enfant de parcourir un corridor avec une prothèse, mais quand il y a un chien qui l'attend au bout, ça la stimule. » Alors les fonds amassés, sachez-le, par la Fondation Élan auprès du grand public, permettent à celle-ci de financer notamment l'achat d'équipements spécialisés, le réaménagement d'aires de thérapie et le déploiement d'activités d'intégration sociale. Également, si cela vous intéresse, on parlera beaucoup aujourd'hui de surdité et d'heureux événements qui peuvent accompagner ce handicap, car comme on le disait hier avec nous nous disions qu'il n'y avait pas que des moments difficiles, loin de là, lorsqu'on est une personne handicapée. Voilà ce que je voulais dire et nous le disions hier aussi à cette émission-là. Eh bien, ça sachez que Marie-Josée Taillefer et sa fille Rosalie Taillefer-Simard vont raconter leurs histoires à travers des conférences et ce, dès l'an prochain. Les deux femmes expliqueront comment la surdité de Rosalie a parsemé leur route d'embûches et comment elles ont surmonté chacune d'elles. Madame Taillefer, qui dit qu'on lui a demandé depuis très longtemps de donner ses conférences, mais qu'elle était trop occupée pour le faire. Elle dit aussi qu'ils ont eu la chance, elle et son René Simard de Marie, d'être des gens publics et que donc ils ont toujours reçu beaucoup de secours et que ça leur a donné beaucoup d'espoir, que ça les a aidés beaucoup, mais que ce n'est pas malheureusement la vérité pour tout le monde et que donc elle avait accepté de donner ses conférences pour venir en aide peut-être à des parents d'enfants sourds ou à des gens eux-mêmes atteints de surdité. L'entrevue du jour, il s'agit de M. René Binette et justement on continue sur le même thème. Voyez-vous comment les choses sont bien faites au Par Actualité. Bonjour M. Binette.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'écomusée du Fiermonde.
C'est ça.
Voilà. Et vous nous proposez, depuis le 13 octobre dernier, une nouvelle exposition qui s'appelle « Peuple de l'œil ». D'abord, quel beau titre.
Oui, c'est ça. Qui fait référence, bien sûr, au fait que les personnes sourdes, les personnes de la communauté sourde, communiquent avec les yeux. Leur regard et les gestes et le visuel, c'est quelque chose qui est au centre de leur vie, de leur culture.
Oui, non, c'est pour ça vraiment. Je trouve que c'est un très beau titre et je voulais vous le signaler. Alors, c'est une exposition qui va se dérouler jusqu'au 5 février 2017. Alors, comment s'articule cette exposition-là? Qu'est-ce qu'on pourra y trouver?
C'est ça. Alors, l'exposition a un certain nombre de particularités, mais disons que l'exposition permet de découvrir l'histoire de la communauté sourde et également de découvrir la culture sourde, ce qu'est la culture sourde. Alors, cette histoire de la communauté sourde, c'est quelque chose de méconnu. Et donc, ça va vraiment nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est quels sont les principaux jalons de cette histoire et d'une certaine façon, comment ces gens de ces sourds sont passés d'individus isolés, pourrait-on dire, qui étaient un peu perçus comme des personnes déficientes communauté reconnue à part entière, comme des citoyens à part entière qui font partie d'une communauté et qui ont une culture. Alors donc, c'est un peu cette trajectoire qui va être racontée au travers d'événements, de personnages, de documents d'archives et donc de bâtiments aussi qui ont marqué, d'institutions qui ont marqué cette histoire de la communauté. À cela s'ajoute un certain nombre d'œuvres d'art qui viennent exprimer ce qu'est l'art sourd et la culture sourde. Alors, c'est comme une immersion un peu dans cet univers de la culture sourde qu'on propose au public.
C'est peut-être une drôle de question, mais on se base sur quoi pour retracer 160 ans d'histoire, pardon, de la communauté sourde?
Ah ben, il y a eu une recherche historique.
Énorme,
sûrement. Le projet s'appuie sur une recherche historique importante, c'est ça. À la fois, on s'est inspiré de documents existants, d'études déjà faites, mais on a aussi fouillé dans des sources d'archives un peu inédites aussi pour aller chercher un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ça. Alors, il y a comme vraiment un travail, a duré plusieurs mois, en fait, plusieurs années. Ça fait déjà un certain nombre d'années que nous travaillons sur cette exposition. Une des particularités de l'exposition, c'est d'ailleurs d'être quadrilingue. L'exposition est donc en langue des signes québécoise, qu'on appelle le LSQ, en ASL, American Sign Language, en français et en anglais. Et ce qui structure l'exposition, ce sont des écrans. L'exposition, elle est d'abord et avant tout signé. Et il y a un feuillet qui permet aux visiteurs entendants de suivre l'exposition avec les textes dans un feuillet. Donc, c'est nous qui devons nous adapter, nous étant les personnes entendantes, on s'adapte un peu à cette réalité. Alors, ce qui structure l'exposition, cette expression en langage signé.
Bien sûr, donc une exposition très silencieuse aussi, ça doit...
Oui, effectivement, c'est vrai. C'est une exposition, c'est ça, qui est signée, c'est un fait. Ceci dit, il y aura quand même des occasions, parce qu'il y a toute une programmation d'activités de médiation culturelle qui est offerte pendant l'exposition, qui va aussi permettre d'aller à la rencontre des personnes de la communauté sourde. Alors, autant des visites guidées que des conférences, des projections, rencontres avec des artistes. Et bien sûr, à ce moment-là, il y aura des interprètes. Donc, il y aura moyen, justement, de rencontrer ces personnes et d'entrer en communication avec elles.
Tout ça à l'Écomusée du Fiers-Monde?
Exact, c'est ça. Tout ça est à l'Écomusée du Fiers-Monde jusqu'en février. Par la suite, l'exposition deviendra itinérante. Mm-hmm. C'est une autre histoire, mais c'est ça. C'est tout l'automne et au début de l'hiver également là, que ça se passe chez nous.
Et pourquoi à cet Écomusée du Fiers-Monde? Quel est le lien entre vous et la communauté sourde?
Mais en fait, l'Écomusée du Fiers-Monde se définit comme musée d'histoire et musée citoyen. Alors, musée d'histoire parce qu'on raconte, je dirais, l'histoire du Montréal, une histoire méconnue du Montréal populaire, je dirais. Musée citoyen parce qu'on s'intéresse à la démocratie culturelle. On veut donner une place à toutes les cultures à l'intérieur du musée. On voit l'exposition comme un outil d'empowerment et on travaille en partenariat. Alors, ce projet, il s'inscrit dans les deux volets de notre mandat. il raconte une histoire qui est méconnue.
Hein, oui.
Il y a un côté citoyen, c'est-à-dire qu'il exprime comment ces gens sont devenus des citoyens à part entière.
Et peut-être rappeler, avant qu'on se quitte, M. René Binette, l'écomusée du Fiermonde, il est situé où?
Sur la rue Amherst, au 2050 rue Amherst, à Montréal. Donc, c'est juste un petit peu au nord de la rue Ontario.
Oui, juste en face du petit marché Saint-Jacques.
En face du marché Saint-Jacques,
d'ici.
Exactement.
Hein?
C'est ça.
Alors, voyez-vous, on sait tout de mes habitudes. Monsieur René Binette, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé de cette exposition, Le Peuple de l'œil, où je vais aller assurément parce que ça m'a l'air mais vraiment intéressant. C'est ouvert tous les jours.
C'est ouvert le lundi, mardi, c'est fermé. C'est du mercredi au dimanche.
Alors, écoutez, toutes les informations vont se retrouver sur notre site Internet. Soyez-en sûrs. Monsieur René Binette, directeur de cet écomusée du Fiermonde, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Ben, merci. Bienvenue à vous et bienvenue à tout le public.
Merci. Au revoir. Bonne journée.
Au revoir.
Actualité para-régionale. Pardon, para-actualité. Elle était drôle, celle-ci. Par actualité régionale, pardonnez-la. Amélioration envisagée à la plage de Verdun. Le projet de plage, je vous en ai déjà parlé ici, derrière l'auditorium de Verdun, tel que présenté à la soirée d'information du 12 octobre, pourrait être bonifié. Les plans n'étant pas encore définitifs, plusieurs améliorations suggérées par les Verdunois présents pourraient être prises en considération. Le maire Jean-François Parenteau s'est dit ouvert à remplacer le béton notamment et le plastique par des matériaux naturels et nobles comme du bois ou des pierres et comme l'avait suggéré une Verdunoise, Marie-Andrée Mauger. Dans la configuration actuelle également, parlons de sécurité. Les piétons devront traverser la piste cyclable et pour l'instant, des changements de couleur et de surface dans le pavage ont été privilégiés suivant des recommandations de Vélo Québec. Mais des mesures plus restrictives pourraient aussi être envisagées. Par exemple, une chicane plus prononcée, une lumière pour la traverse de piétons ou un arrêt pour les vélos font partie des solutions possibles. L'accessibilité universelle, ce n'est pas seulement pour les gens en fauteuil roulant. Il faut aussi tenir compte des personnes sourdes et aveugles. Pour eux, cette cohabitation avec les cyclistes pourrait être très dangereuse, souligne le conseiller de Projet Montréal, Sterling Downey. Donc, c'est encore un work in progress en bon français. Mais c'est, en tout cas, on veille vraiment beaucoup à ce que cette plage soit accessible. Et ça, c'est assez fantastique à Verdun. Un autre sujet maintenant, la ville de Victoriaville a organisé en fin de journée mardi une réception civique pour rendre hommage à ses deux athlètes paralympiens, Charles Moreau et Guillaume Ouellette, pour leur performance aux Jeux paralympiques de Rio tenus du 7 au 18 septembre dernier. Rappelons que le Canada, représenté par 162 athlètes dans 19 disciplines à ces Jeux, a récolté 29 médailles, 8 d'or, 10 d'argent et 11 médailles de bronze. Et deux de ces médailles de bronze appartiennent à Charles Moreau dans ses deux épreuves en cyclisme à main, le contre-la-montre et la course sur route. Guillaume Ouellette, aux prises avec une déficience visuelle, a aussi très bien performé en course à pied, en battant son record personnel aux 1500 mètres et en terminant en quatrième position, si près du podium aux 5000 mètres. En vous rendant ainsi hommage, leur a dit le maire André Bellavance, on voulait s'assurer que ses performances sur la scène internationale passent à l'histoire. Elles seront gravées dans l'histoire de Victoriaville. Vos signatures dans le livre d'or de la ville font en sorte que vous resterez dans les archives à tout jamais, à perpétuité. Elle est la cofondatrice de Transport Mais Adapté, Marie-Ève Veilleux. Elle est donc toute désignée pour nous parler des 50 ans du métro. Un événement donc qui a été souligné par les membres de Transport Mais Adapté et dont elle va nous faire le récit. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Bon, alors, parlons-en de ces 50 ans du métro le 14 octobre, parce que pour l'instant, du côté de la communauté des personnes handicapées, j'entends surtout des dents qui grincent.
Oui, exactement. Donc, à l'annonce des activités pour souligner le 50e du métro, évidemment, sur Transport Mais Adapté, on a partagé cette annonce-là. Puis, c'est un peu difficile de célébrer un métro qui est encore majoritairement inaccessible. Oui, puis on parle pas juste des ascenseurs, il y a aussi les annonces visuelles. Les personnes sourdes, quand il y a des pannes, ils savent pas ce qui se passe parce que les annonces sont juste sonores. On connaît pas s'il y a un plan d'évacuation, des choses comme ça. Il reste quand même du travail à faire par rapport à l'accessibilité du métro. Oui.
Oui. Et quelles sont les raisons d'être au départ de Transports Mésadaptés, peut-être pour les gens qui vous connaîtraient mal?
Oui,
et qui en fait partie?
Dans le fond, on est un groupe Facebook que Laurence Parent et moi, on a fondé en décembre 2013 déjà. Mm-hmm. Maintenant, on est presque à 600 membres et c'est un groupe Facebook ouvert, public. Dans le fond, les gens partagent leur expérience dans les transports d'une façon assez large. Là. Mm-hmm. Au lieu de les vivre, justement, vivre cette exclusion, cette discrimination seule, dans un transport adapté, par exemple, on peut les partager. Puis, on voulait créer, dans le fond, ce lieu de rassemblement, puis créer une sorte de communauté autour de ces questions-là.
Et comment vous avez réagi, vous, lors de l'annonce des festivités du 50e de la STM?
Oui,
dit-elle, au moins.
Évidemment, on n'avait peut-être pas le cœur à la fête. Là.
Non. Hein?
La première réaction a été, justement, il y a quelqu'un qui a publié sur Transport et Mésadaptés. Il faut aller poster des commentaires sur leur annonce pour justement faire entendre notre voix. La dame disait « Je ne veux plus rester silencieuse » justement sur toute cette exclusion du métro de Montréal. Puis ça a mené en collaboration justement avec le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal à l'organisation d'une manifestation pour justement dénoncer 50 ans d'exclusion dans le métro.
Elle aura eu lieu, est-ce qu'elle a déjà eu lieu?
Oui, c'est ça. Hein? On s'est rassemblés justement le 14 octobre en avant-midi,
d'accord.
À la station Place des Arts, oui.
Bon, et puis est-ce que vous avez l'impression que ça a donné quelque chose? Il y a des retombées, il y a des...
C'est peut-être un petit peu tôt pour savoir. On a eu quand même un beau groupe, environ, je dirais, 20-25 personnes.
D'accord.
On a fait des discours. J'ai testé l'application Facebook Live. Donc, j'ai diffusé en direct sur Facebook les discours qui ont été donnés pendant cette action-là. On a aussi une belle couverture médiatique des médias principalement anglophones. Je pense pas que j'ai vu quelque chose du côté des francophones.
C'était ma prochaine question.
Oui. On a beaucoup d'attention du côté des médias anglophones, un peu moins du côté des francos.
Pourquoi ça? On se
demande. C'est une grande question.
Oui,
ça fait des années qu'on le voit. C'est une question près de culture, c'est à explorer.
Oui. Est-ce que vous avez mené d'autres actions le 14 octobre où il y a eu...
On a eu une présence aussi dans le métro. Justement, STM avait aménagé une rampe pour que les personnes en mobilité réduite puissent accéder justement au métro Place des Arts, qui n'est pas normalement accessible. Et donc, on a scandé des slogans juste après le discours de Philippe Schnob, etc. Donc, on était un groupe parmi les gens qui étaient venus. Écoutez ça.
il doit vous trouver un petit peu fatigant. Hein, mais évidemment, je dis ça parce que mais continuez à être fatigant. Hein, on s'entend, Marie-Ève, parce que ils se rendent tellement pas compte, quoi. La conscience est pas là. Et puis, il y a eu cette annonce récente de la STM de rendre 14 stations de métro accessibles d'ici à 2022. Ça vous réjouit ou, comme moi, ça vous fait sourire?
C'est aussi un sujet qui a été d'actualité sur Transports Mésadaptés, la fameuse annonce de la semaine dernière de l'ajout de... Au départ, c'est une bonne nouvelle parce que tout engagement public, c'est une bonne nouvelle de rendre le métro plus accessible. Mais on n'en est pas à notre première annonce, puis d'autres annonces n'ont malheureusement pas été respectées. Donc, on garde un petit peu de scepticisme. Évidemment, on a soulevé quelques points. Par exemple, le centre-ville semble assez mal desservie. Il y a des grandes stations qui ne sont pas...
Oui, d'ailleurs, je me faisais la remarque, c'est beaucoup dans l'Est, dans l'Ouest, tout ça, très, très peu. Quand on sait que Berry, avant que la ligne verte soit accessible, on parle de 2020, si mes souvenirs sont bons.
Je ne sais pas par cœur, mais c'est ça. Dans
il
fond,
me semble.
La ligne verte devrait commencer dans les prochaines années à être accessible, mais c'est tranquillement. Donc, il y a Peel, Guy Concordia, Atwater, il n'y a rien pour ces stations-là. Le choix des stations a été aussi critiqué parce que, justement, la STM a fait le choix de choisir des stations simples pour augmenter le nombre de stations. Donc, ça fait joli. 14 stations, c'est beaucoup plus que moins. Mais, donc, si on a besoin de tout ce temps-là pour rendre des stations simples accessibles, ça nous fait un peu peur pour le sort des stations qui sont plus complexes. Combien de temps ça va prendre pour les rendre accessibles?
Rosemont, c'est fini ou pas?
C'est ça, dans le fond, c'est supposé être fini, mais ça, il y a des délais qui s'étirent. Donc, on connaît justement ces délais-là qui s'étirent. Et 2022, on verra ce qui va arriver là.
C'est pour ça que je suis tellement ironique. Et là, quand je vous dis « heureusement », Ah, mais écoutez, Marie-Ève Veilleux, je rappelle que vous êtes cofondatrice avec Laurence, parent de Transport Mésadapté. Mm-hmm. Et que donc, voilà, vous faites partie de ces gens qui est allé dire non, ça marche pas. OK, d'accord, vous nous avez fait une rampe, c'est bien joli, mais encore a-t-il fallu qu'on chiale pour l'avoir aussi, parce que sinon, vous n'auriez même pas eu accès à ces festivités-là. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté, Marie-Ève. C'est essentiel. Peut-être rappeler où les gens peuvent s'exprimer.
C'est un groupe Facebook, donc c'est Transport Mésadapté. Les gens peuvent devenir membres puis commencer à publier. Oui.
D'accord. Merci beaucoup, Marie-Ève Veilleux.
Merci.
Bonne fin de journée. Salut. Oui. C'est à l'international qu'on ira ce matin avec cette actualité que mon amie Anne-Laure Janson nous a trouvé. Il s'agit d'un jeune handicapé, l'histoire d'un jeune handicapé et de sa maman. La maman d'un jeune homme de 26 ans dénonce les pratiques discriminatoires d'une compagnie aérienne qui lui a chargé des frais supplémentaires parce que son garçon est handicapé. Elle s'appelle Debbie Kobayakawa. Elle a raconté à la chaîne KGMB que son garçon de 26 ans, qui s'appelle Yann Nieblas, a dû payer 100$ pour se faire escorter dans l'aéroport alors que ce service est habituellement gratuit. Alors, ce garçon-là de 26 ans, en plus d'être autiste, il est non-voyant et il est presque sourd. Le jeune homme, qui a pris l'avion à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, n'a jamais eu à débourser pour ce type de service qui lui est essentiel, on s'entend. On m'a dit que ça coûtait 100$. J'ai dit non, que ça ne passerait pas comme ça, explique la maman en entrevue. Elle a ensuite demandé une passe de sécurité afin d'accompagner son garçon elle-même dans les dédales de l'aéroport. Selon le département américain des transports, toutes les compagnies doivent offrir, je dis bien doivent offrir de l'assistance aux personnes aux prises avec un handicap lors de l'embarquement et du débarquement. La loi fédérale ne fait toutefois jamais mention de frais. Hawaiian Airlines a répondu aux accusations, car il s'agit bien de la compagnie hawaïenne, a répondu aux accusations en envoyant un communiqué. Notre politique est d'accompagner tout passager avec un handicap à la porte d'embarquement et vice-versa. Si un passager demande un accompagnement plus long, nous devons dédier un membre de notre personnel à cette tâche et cela entraîne des coûts supplémentaires. Nous sommes à investiguer ce cas particulier. Si nous avons facturé ce passager par erreur, il sera remboursé, peut-on lire dans la déclaration. Je souhaite à Hawaiian Airlines s'assure de respecter les lois fédérales, a conclu la mère de famille. Alors, un souper pour nourrir des enfants haïtiens. Les élèves de l'école Sainte-Famille aux Trois Chemins, ayant participé au voyage en Haïti l'an dernier, veulent poursuivre leur implication auprès des enfants qu'ils ont vus dans ce pays. Ils ont décidé de les nourrir pendant un an. Et pour ce faire, ils organisent un souper spaghetti le 22 octobre pour amasser des fonds. Les enfants dans ce pays ne mangent qu'une fois par jour et les enfants handicapés sont rejetés car ils ne servent à rien pour la société, explique la coordonnatrice de Bouffée Oxygène à cette école, l'Interio. Les élèves ayant participé à ce voyage se sont tous trouvés un emploi en revenant. La plupart ont aussi décidé de parrainer un enfant. Ils ont également envoyé 4 barils d'objets en Haïti, dont l'un pour l'orphelinat où ils étaient logés. Les gens n'ont pas d'électricité ni d'eau potable là-bas, alors qu'ici, nos vaches ont de l'eau dans les champs, raconte Mme Thériault, qui a pleuré les 3 premiers jours du voyage en découvrant dans quel état les Haïtiens vivent. Le coût pour nourrir les enfants de l'orphelinat est de 55$ américains chaque semaine. On y retrouve 17 filles et 9 garçons. Les élèves ont commencé à envoyer de l'argent en juillet dernier. Mme Thériault reçoit des factures lui prouvant que la nourriture a été achetée. Les élèves ayant participé à ce voyage ont préparé un diaporama qu'ils ont présenté dans plusieurs classes des écoles de la Petite Nation ce qui leur a valu le titre d'ambassadeur de l'Association québécoise pour l'avancement des Nations unies, la CANU. Alors, le souper spaghetti aura lieu au Centre communautaire d'Angers, le 22 octobre à 18h. Le coût du billet, 15 $, il est possible de s'en procurer en téléphonant à Madame Thériault, justement. Je ne vous donne pas le numéro là, mais vous pourrez le trouver facilement dans les paractualités du jour sur notre site Internet. Parlons-en du site Internet. Vous savez que depuis plusieurs mois, l'équipe de Canal M travaille pour vous créer ce nouveau site web qui a été mis en ligne depuis lundi, qui va remplacer l'ancien, doucement mais sûrement. Alors, l'écoute en direct ne devrait pas être interrompue, comme vous pouvez peut-être le constater si vous m'écoutez en ce moment en direct, mais l'écoute en différé d'émissions et de différentes entrevues pourrait être temporairement affecté et nous nous excusons bien sûr à l'avance des inconvénients que cela pourrait créer. Maintenant, des activités pour tous à surveiller cette semaine. Jusqu'au 31 octobre, un large éventail d'activités est proposé à la population montréalaise afin de mettre en lumière l'ensemble des services et des collections adaptées offertes aux personnes ayant une limitation fonctionnelle par les bibliothèques de Montréal. Ces animations sont offertes gratuitement et représentent des sorties ludiques, bien sûr, et originales à faire en famille ou entre amis. Par exemple, ce midi, là, ça va peut-être être un petit peu juste pour vous y rendre. Alors, je vais peut-être oublier celle-ci, mais au cas où, si vous habitez près de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, il y a une conférence à midi, ça va commencer sûrement un petit peu en retard, sur la santé auditive. Ça s'appelle « Entendez-vous bien ». Également, un petit peu plus tard, à la bibliothèque Marie Huguet, il y a aujourd'hui même une conférence. En fait, c'est une activité qui est offerte aux enfants de 5 à 12 ans et qui a pour but de leur faire explorer leurs 5 sens avec des jeux interactifs. Et plusieurs défis les attendent. Ils devront être à l'écoute de leur corps pour réussir, car ils seront privés d'au moins un de leurs sens. D'ailleurs, ça s'appelle, cette activité-là, « Nos sens, nos différences ». Aujourd'hui, à 13h15, à la bibliothèque Marie Huguet. Le vendredi 21 octobre à 14h à la bibliothèque Le Prévost. Parlez-vous LSQ. Marc-André Bernier, bibliothécaire sourd, invite le public à mieux connaître la culture sourde et à apprendre les rudiments de la langue des signes québécoise, activité présentée en français et en LSQ. Le samedi 22 octobre de 10h30 à 11h15 à la bibliothèque du Plateau Mont-Royal, ce sera l'heure du conte présentée par Altergo. Et puis le dimanche 23 octobre à 14h à la bibliothèque Béni, atelier Nos sens, nos différences, ce sera bilingue, par Nous les arts, ça commencera notamment par une discussion sur les différences et les limitations physiques, également avec jeux interactifs, et c'est pour les jeunes de 5 à 12 ans. Voilà ce qui conclut les paractualités de ce 19 octobre 2016. Merci de les avoir suivis, merci à mon équipe. Je vous souhaite une très belle journée, je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30.